vivement qu'on l'enlève. Comment allez-vous? Alors j'ai reçu un coup de fil cette semaine qui a duré à peu près une heure et demie par un frère qui ne fait pas partie de cette église, mais il a plein de problèmes, oui, oui et non. Il a surtout plein d'idées. Il a plein d'images dans sa tête et en fin de compte, ça a conforté ce que je voulais vous dire ce matin. Et peut-être qu'on va se retrouver dans ce que je vais vous partager. Est-ce qu'on a, par rapport par exemple aux gens qui nous entourent, est-ce qu'on ne trouve pas que les personnes qui nous entourent ont des idées par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous sommes, qui correspondent pas trop à ce qu'on est réellement. Est-ce que nous-mêmes, on n'a parfois pas soupçonné des intentions, que les gens ont eu des intentions à notre égard, peut-être que même nous, qu'on a eu des intentions qu'on n'a jamais eues, on nous a prêté des intentions qu'on n'a jamais eues, on nous a prêté des paroles qu'on n'a jamais dites, et... Bref, on a été catalogués comme des personnes, méfiez-vous d'eux quand même. Méfiez-vous d'eux parce qu'ils sont bizarres, ils sont dangereux. Vous savez, ces images qu'on a des personnes. Mais il arrive parfois que c'est le sens inverse. Vous savez, c'est qu'un jour, on aurait réussi quelque chose de magnifique, et puis les gens nous prennent pour des bosses. C'est-à-dire, mais cette personne, tu peux aller le voir, tu as un problème, tu vas le voir, tu vas voir. Il va le régler à une vitesse, parce que vraiment, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très intelligent. Et peut-être que même un jour, on a été généreux. Dans un élan de cœur, on a été généreux, et les gens se disent, mais il a vraiment la foi. Il a vraiment la foi, parce qu'on a eu ce geste généreux. Bref, c'est pour vous dire que on a souvent des images qui sont plaquées sur nous. Des images qui ne correspondent pas forcément. Et soit, comme j'ai dit, ce soit positif ou négatif, souvent on a des images qui ne nous plaisent pas. C'est-à-dire qui ne correspondent pas du tout. Et on le sait dans son cœur que ces images ne correspondent pas. Mais les idées que les gens ont de nous, est-ce que parfois on n'a pas ces mêmes idées pour ces gens-là? Est-ce qu'on n'a pas les mêmes idées pour les personnes qui nous entourent? Et est-ce qu'il nous arrive, par exemple, quand on croise quelqu'un qu'on connaît, qu'on le croise dans la rue, cette personne ne nous salue pas, on est agacé, on est vexé, très vexé, parce qu'il ne nous a pas salué. Et bien sûr, la plupart du temps, ça a été prouvé, c'est que les gens ne nous ont pas vus, tout simplement. Et d'autant plus maintenant, avec le masque, c'est encore pire. En réalité, qui est fier dans l'histoire? C'est pas la personne qui ne nous a pas vus, mais c'est nous qui sommes fiers. C'est notre dignité, notre moi qui a été atteint. Et souvent, la petite chose qu'on a vue, la petite chose qu'on l'a marquée, on est tellement vexé qu'on va l'enfler, qu'on va l'amplifier, qu'on va faire quelque chose d'énorme, d'un petit truc de rien du tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il m'arrive parfois de penser que même la personne qui me parle est en train de me mentir? Un ami, quelqu'un de ma famille, ou même un frère ou une sœur de l'Église. Mais si je soupçonne le mensonge, en fin de compte, est-ce que ce ne serait pas que je suis un fervent adepte du mensonge? C'est-à-dire que le mensonge, moi, je le pratique au quotidien dans ma vie. Si je le soupçonne chez mon voisin, bien sûr, c'est parce que il est chez moi aussi. Et on sait surtout comment l'utiliser, on sait surtout comment l'apprivoiser. Donc on le voit partout. Même quand les gens ne nous mentent pas, on voit le mensonge. Parce que ça fait partie de notre vie. Ah, je vois beaucoup de Dieu, c'est en train de dire, mais où il va, où il nous emmène? Et souvent, on pense que les gens croient du mal de nous, alors que c'est faux. C'est totalement faux. Parce que, en fin de compte, c'est parce que dans notre mauvaise conscience, on s'imagine plein de choses. On a des images dans notre tête qui ne correspondent pas du tout à la réalité du fait. Tout ça parce que bah souvent notre vie n'est pas en règle. Souvent notre vie n'est pas droite. Alors le mal qui est chez nous, on le voit chez les autres, alors qu'il suffit simplement de se regarder et de voir le véritable état d'orgueil qu'il y a dans notre vie, le mensonge, la médisance. Toutes les fautes que nous projetons sur les autres, et d'abord et en particulier chez nous. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas le mal en lui ne peut pas soupçonner le mal chez les autres. Mais quand on commence à soupçonner le mal chez les autres, ça veut dire que on l'a chez nous, avant tout. Alors, et on le voit facilement chez le voisin. On le voit plus chez le voisin que chez nous. Et j'aimerais vous lire un verset, si Stéphane veut bien le mettre, en Luc chapitre 6, verset 41. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est pour chacun de chaque chose qu'il y a dans notre vie. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vous voyez? On voit souvent le petit truc qui ne va pas chez le voisin, alors que chez nous, c'est beaucoup plus gros. Parce qu'on refuse de le voir. Ou alors parce qu'on est tellement habitué qu'on ne le voit plus du tout. Et souvent, quand on a ces images-là, c'est on refuse d'avoir la réalité de notre vie en face. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que parfois on ne l'applique pas à Dieu? Vous savez, cette image. Et c'est pour ça que ce coup de téléphone cette semaine m'a montré que, eh oui, on a chacun. La personne avait une image de Dieu qui ne correspondait pas du tout. Pas du tout à la réalité de qui est réellement Dieu. On s'est fait une image, en fin de compte, d'un Dieu qui nous condamne. Et quand on a cette image d'un Dieu qui nous condamne, on n'avance plus. On est stoppé net. On est stoppé net. Vous avez beau dire, vous avez beau entendre, oui, Dieu aime et pardonne. Non, vous avez cette image que parce que je ne suis pas comme le Seigneur veut, je suis condamné. Ben, il y aurait beaucoup de morts, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si Dieu attendait qu'on soit parfait pour nous sauver, on ne serait pas beaucoup dans cette église, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc on le représente comme un juge dont le but est de nous écraser, dont le but est, et en fin de compte, bah, nous rendre plus petits. Alors que lui veut que nous grandissions. Et ce qu'on soupçonne chez les autres, bah, on le soupçonne aussi venant de Dieu. Et c'est exactement le dialogue que le serpent a eu avec Ève. C'est exactement ce dialogue. Voilà. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bing, dans la Bible, ça s'arrête comme ça. Le malin fait exprès de laisser cette phrase en suspens. De telle manière que pour la femme, cette phrase devient ambiguë. Mais en fin de compte, oui. Et vous allez voir par la suite jusqu'où ça va aller dans la pensée de Ève. Et elle peut signifier, par exemple, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin, mais Ève va rectifier. Et on sait personnellement que Dieu n'a jamais dit cela. Il avait dit exactement l'inverse, c'est le verset suivant, à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vous voyez, il n'avait pas absolument pas dit ça. Il avait simplement ajouté, Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais pourquoi Dieu avait eu cette restriction? Vous imaginez dans la tête de Ève? Est-ce que c'est pour m'embêter? Est-ce que c'est pour me priver de quelque chose de bien? En fin de compte, ça a jeté un doute dans le cœur de la femme, un gros doute. Et ça a fait naître dans le cœur de Ève un soupçon à l'égard de Dieu. Dieu voulait la priver de quelque chose de bon, parce que peut-être elle n'était pas digne, que Dieu la trouvait indigne et qu'il voulait l'écarter. Mais en fin de compte, le verset 4 et 5 nous dit, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà ce que voulait faire Dieu. C'est écarter l'homme du péché. Au départ, nous étions faits à l'image de Dieu. Vous imaginez? Donc l'imagination d'Ève s'est mise à travailler. Elle entame une discussion avec le serpent, ce qui fait que ça l'a écartée du chemin et de la simplicité de la parole de Dieu. Ce que Dieu lui avait dit, c'était tout simple. Mais avec son entendement, avec ses questions, ça l'a écartée de la vérité. Et peut-être que Dieu lui cachait quelque chose par jalousie. Et elle s'est laissée séduire. Et chacun, c'est ainsi que nous nous comportons à l'égard de Dieu. Réfléchissons dans notre vie. Moi, le premier, j'ai eu à un moment donné cette même réflexion. C'est sûr que ça fait longtemps. Mais j'avais cette même réflexion, comme si Dieu, en fin de compte, Dieu était tellement pur, Dieu était tellement grand, que j'avais aucune chance. Aucune chance. Que j'avais beau aller à l'église, que j'avais beau prier le Seigneur, que j'avais beau lire sa parole, je n'avais aucune chance. Que ma vie ne serait jamais comme Dieu veut. Parce que Dieu était trop exigeant. Parce que ce qu'il me demandait, c'était impossible. Mais pour qui me prend-il? En fin de compte, c'est ce qu'on pense de Dieu, c'est exactement la projection de ce que nous, nous sommes en réalité. Des pécheurs. Impénitents. Il suffit de se repentir tout simplement. Et on ne va plus sentir cette culpabilité qu'il y a dans nos cœurs. Et on se sent souvent incapable d'aimer. On ne peut pas aimer réellement. Parce que je ne suis pas conforme à ce que Dieu demande. Parce que l'image que j'ai de l'homme parfait en Dieu, je ne suis pas cet homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Au lieu de reconnaître le mal qui est en nous, je suis en train de projeter le mal qui est en moi sur les autres. C'est-à-dire que je reconnais dans les autres le mal qui est en moi. Et de ce fait-là, je suis incapable de voir la réalité des faits. Et on cherche plein d'images pour sauver la face, plein d'images pour nous justifier. Et on se donne parfois même des apparences de bons chrétiens, d'avoir une vie remplie de la lumière de Dieu, alors qu'à l'intérieur, il n'y a que la teigne et la rouille. Parce que je me refuse que Dieu touche ma vie personnelle. Parce que Dieu ne touchera jamais ma vie personnelle. C'est impossible, c'est pas possible. Parce que Dieu est trop haut. Parce que Dieu ne peut pas me regarder, je suis trop sale, je suis trop laid. Mais tout ce qu'on a ici dans notre cœur, et on l'a vécu chacun. Je suis persuadé que si je commence à demander, les gens lèvent les doigts, ils vont tous dire, bah oui, moi j'ai vécu cette chose-là. En fin de compte, toutes ces raisons qu'on s'est données sont très mauvaises. Et l'activité intérieure qu'on a de se déculpabiliser nous est épuisante et elle nous entraîne dans une angoisse. Et vous avez des gens qui font de la dépression, ce que j'appelle la dépression spirituelle. Ils sont incapables d'avancer. Ils vont vivre dans le monde, oui, mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils sont incapables d'avancer. Ils ont une image d'un Dieu qui ne correspond absolument pas. Et souvent, naît à ce moment-là dans le cœur la chose la plus terrible que vous trouverez dans la parole de Dieu comme la racine d'amertume. Une racine d'amertume qui nous aveugle, qui nous rend complètement incapacitants. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien. On est incapable de produire de l'amour et on ne discerne même plus le bien et le mal. Et ainsi on juge nos prochains, on juge nos amis, on juge nos frères et sœurs. La parole nous en parle en Hébreux chapitre 12 verset 15. C'est bien. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. J'ai connu la racine d'amertume dans ma vie. Je peux vous dire que c'est effrayant. Je ne voyais que cette chose-là. Ma vie était construite autour de cette racine d'amertume. C'est effrayant. Je voyais même plus Dieu. Je voyais Dieu comme incapable d'agir dans ma situation. Alors que ma situation, c'était moi-même qui l'avais provoquée. Et bien sûr, ce n'était pas une situation de bien. C'était une situation de mal. Et c'est incroyable. Je ne vous souhaite jamais de connaître cette racine d'amertume. C'est ce qu'il y a de pire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver à un chrétien. Mais pourquoi, en fin de compte, on en arrive à ces choses-là? Et l'intitulé de ma prédication, c'est « Dieu, mon idole ». Parce qu'on a fait de Dieu notre idole. On s'est fait une image. Si vous regardez la définition d'une idole, c'est ça. On s'est fait de Dieu une image qui ne correspond absolument pas au Dieu que l'on connaît, au Dieu de la parole. On s'est construit quelque chose d'effrayant, quelque chose qui est incapable d'agir en nous. Un Dieu très élevé, un Dieu qui est incapable de s'abaisser, un Dieu qui est incapable de nous écouter, un Dieu qui est incapable de répondre. Bref, on a fait une idole de Dieu. Et maintenant, qui va nous délivrer de cette image? Qui va nous délivrer de cette chose qui est tellement lourde dans notre vie, qui nous empêche de lever les yeux vers Dieu? Dieu a dit à Moïse, pourtant, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bien sûr, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de l'image qu'on s'est faite de lui. Et c'est terrible, hein, vous savez que en a l'air, vous avez l'impression d'écouter, mais si. Vous savez qu'on peut se construire une vie de chrétien à cause de l'image qu'on s'est faite de Dieu. On va avoir une vie, par exemple, correcte, rangée, il faut que je lise la parole, parce que sinon, je n'irai pas au paradis. Il faut que j'aille à l'église, parce que sinon, je perds mon salut. Il faut que je fasse ceci, il faut que... il faut, il faut, il faut. Est-ce qu'il faut vraiment? Jésus, en mourant sur la croix, il a dit tout est accompli. Le il faut, faut le rayer. Tout est fait. On n'a plus rien à faire. Et comment on peut faire? Il suffit de demander à Dieu de nous montrer l'image, la vraie image de qui il est. Que tout dans notre vie soit mis en lumière. Tout, tout. Vous savez, c'est plus la lumière qu'on a construite. Toute cette lumière faite de religiosité. Est-ce que vous avez un verset qui est marqué dans la parole de Dieu qui dit: tous les jours, vous serez obligés de lire la parole. Non. Mais il est dit que l'homme vivra de cette parole. L'homme va vivre de cette parole. Et ça, c'est important de considérer cette chose. Il n'y a aucune obligation. Et souvent, on s'est donné des obligations. Lorsqu'on a des obligations dans nos vies, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Je vous l'ai dit et je vous le répète sans arrêt, parce que lorsqu'on a la foi, les choses de Dieu deviennent naturelles. Ce n'est plus une obligation, mais c'est devenu une soif. On a soif des choses de Dieu. Donc, c'est mettre, je vous disais, c'est mettre notre vie à la lumière. Et cette lumière s'appelle, en fin de compte, Jésus-Christ de Nazareth. Et en Jean 14, 9, Jésus a déclaré: celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a Jésus-Christ aujourd'hui dans sa vie n'a plus cette image de Dieu. Cette image d'un Dieu rude. Cette image d'un Dieu qui ne peut rien faire pour moi. Est-ce qu'on veut connaître Dieu ce matin? Est-ce qu'on veut le connaître? Plus comme celui dont on a construit une image dans notre tête, alors il faut considérer attentivement qui est Jésus-Christ. Si on veut connaître Dieu, il faut considérer qui est Jésus-Christ. Et comment considérer qui est Jésus-Christ? Il faut reprendre les évangiles. Il faut reprendre les évangiles, les méditer, les réexaminer qui est Jésus dans ces évangiles. Vous prenez l'évangile de Jean, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut soupçonner en voyant ces évangiles Dieu de nous vouloir du mal? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? La guérison? La maladie? Le pardon du pécheur ou sa condamnation? La délivrance des hommes ou leur asservissement, la vie des humains ou leur mort. Quand on pose ces questions, par exemple, aux évangiles, on y répond, parce qu'on a la réponse dans les évangiles. On voit l'amour de Jésus-Christ. Et on lit souvent que Jésus était ému de compassion, comme Dieu est ému de compassion pour chacun d'entre nous. Pourquoi Jésus s'est-il offert librement? C'est parce qu'il n'avait rien à faire? Non, c'est parce qu'il a fait la volonté du Père. Et il n'a pas fait la volonté du Père parce que le Père, ben, il n'avait rien d'autre à faire, qu'il fallait sacrifier un homme. Non, c'est pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité des discussions avec le malin, pour sauver l'humanité des images qu'on a. Pour sauver l'humanité de la fermentation qu'il y a dans nos cœurs. Vous savez, ces choses qui sont et qui bouillonnent, et on couvre ça souvent de choses religieuses, et pourtant elles sont dans nos profondeurs. Et Jésus le savait, hein. parce qu'il a fait un diagnostic. Un diagnostic sans ménagement. Et il affirme que c'est du cœur de l'homme que sortent tout ce qui empoisonne la vie sociale. Matthieu chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses sortent du cœur. Et quand on n'a pas le cœur changé, voilà ce qui sort de notre cœur. Alors que lorsqu'on a le cœur changé, c'est l'amour qui sort. Et en fin de compte, Jésus-Christ est mort pour éliminer tout ça dans nos vies. Il est mort pour qu'on en soit pardonné. Il s'est chargé lui-même de ces choses à la croix. Et il a vaincu la mort à la croix. Et je vous le dis ce matin, Dieu a réellement enlevé la culpabilité dans nos vies. Et il l'a fait parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix. Est-ce que on a réellement cette image fausse d'un Dieu qui est dur? Est-ce que pour nous, cette image n'est pas un fardeau? Vous savez, quelque chose que je ne peux pas atteindre parce que Dieu a mis le niveau trop haut. Est-ce que je n'ai pas cette image dans ma tête? C'est une offense, en fin de compte, qu'on fait à Dieu. Parce qu'il nous aime plus que nous pouvons nous aimer. Et c'est un poids, en fin de compte, qui nous oblige parfois à jouer la comédie. À ne pas être réel devant lui. Alors que lui nous connaît parfaitement. Relisez le psaume 139. Il ne faut pas rester dans cette situation. Il faut renoncer justement à cette idole. À cette idole d'un Dieu qui ne nous écoute pas. J'ai beau prier. Combien de fois on l'a entendu? J'ai beau prier, il ne me répond pas. Parce que les gens s'imaginent que je mets 1 euro. Et dès que j'ai fait ma prière, il répond tout de suite. Dieu répond selon ses plans. Parce que lui, à la différence de nous, il n'a pas besoin de remettre 4 fois le travail sur l'établi. Quand il fait une chose une fois, il le fait parfaitement. L'œuvre de la croix en est une preuve. Dieu pardonne tout. La seule chose qu'il faut faire, c'est obéir. Il faut obéir. Et souvent, c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est notre désobéissance. Et ce qu'il demande, en fin de compte, nous le trouvons dans sa parole. Ce n'est pas ce que nous pensons. Vous savez, Dieu m'a demandé, Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit du tout. Il suffit de lire sa parole et on sait ce que Dieu demande. Le peuple de Dieu a pleuré amèrement, parce que dans le pays de Canaan, il y avait des géants. Ils pleuraient. Ils voulaient même retourner en Égypte. Vous imaginez? Ils ont maugré contre Dieu. Ils ont même calomnié Dieu, qui les avait fait amener là pour les laisser mourir devant la terre promise. Ils voulaient même retourner en Égypte, retourner à l'esclavage. Est-ce qu'on n'a pas déjà été comme ça? Et vous savez ce qui est arrivé? Oui, vous le savez. 40 années dans le désert. Ils ont tourné 40 années dans le désert jusqu'à temps que la génération qui avait calomnié Dieu soit morte. Et ensuite, c'est Josué qui a emmené le peuple dans la terre promise. Tout ça parce qu'ils ont désobéi. Je vous ai déjà donné cette image devant la mer. Moïse est allé voir l'Éternel, il a consulté l'Éternel. Que veux-tu que je fasse? L'Éternel a simplement dit que mon peuple avance. Je suis persuadé, je n'étais pas là. Le peuple a fait un pas, le pas d'obéissance. La mer s'est ouverte. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. C'est ce pas qui nous manque. ce pas d'obéissance. Alors on donne une image d'un Dieu qui ne nous écoute pas, qui ne nous entend pas, qui ne fait rien pour nous. Alors qu'il suffit simplement d'obéir. En obéissant, Arlette l'a dit tout à l'heure, vous verrez si je n'ouvrirai pour vous les écluses du ciel. Il faut demander pardon à Dieu pour les images fausses qu'on s'est faites de lui, qui nous ont rendus incapables de le voir et de l'entendre. Parce que quand on lit sa parole, on entend le Seigneur nous parler. On sent le doigt qu'il pose là où nous ne sommes pas au clair avec lui. Et il nous pardonnera, en fin de compte, il va faire de nous des êtres nouveaux, des gens guéris, des gens dignes, ayant une nature divine. En Apocalypse 21, verset 5, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ce que tu dis, il le fait. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il nous sera possible à ce moment-là d'être nous-mêmes en lui. Et j'ai trouvé quelque chose de magnifique. C'est la parole de David devant Nathan. Vous savez qu'il venait de tuer le Héthien et Nathan était allé lui voir, mais en image, il lui a dit « Mais t'as vu ce que t'as fait ? Est-ce que tu es conscient de ce que tu as fait ?» Et au psaume 51, on lit, c'est une prière de David, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » C'est pratiquement les mêmes paroles que le fils prodigue a dit à son père. « J'ai péché contre toi et contre l'Éternel », a-t-il dit à son père. David reconnaissait à cet instant précis qui il était devant l'Éternel. Est-ce qu'on l'a déjà fait ? Est-ce qu'on a osé dire à ce Dieu qui est inatteignable « J'ai péché contre toi. Je reconnais mes transgressions. » Nos capacités spirituelles, en fin de compte, elles sont à l'image des promesses de Dieu. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Dieu peut-il tenir ses promesses ? À votre avis ? Ben oui. Ben oui. Donc ça veut dire que nos capacités spirituelles doivent être au top. Elles ne dépendent absolument pas de l'image qu'on a d'un Dieu, de l'idole qu'on s'est fait de Dieu. Vous voyez ? Elle ne dépend pas de ça du tout, parce que Dieu nous a fait des promesses. Elle dépend d'une chose aussi, c'est avons-nous reçu l'Esprit de Dieu ? Est-ce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu ? Alors maintenant, je vais vous inviter à baisser la tête et on va prier. Seigneur Dieu, je me suis fait à ton sujet des idées et des images fausses. J'ai jeté sur toi un regard déformé, car tous les hommes se sont rebellés contre toi en s'écartant de ta parole. Je t'en demande sincèrement pardon. Au travers de Jésus que tu nous as envoyé, je comprends combien tu nous aimes et combien tu m'aimes. En réalité, depuis le commencement, tu es lumière, et j'accepte que ta lumière me sonde et dissipe en moi tout soupçon à ton sujet et au sujet de mon prochain. C'est moi qui avais des choses à cacher, je le reconnais maintenant, et je veux m'en détourner, car elle me condamne. Puisque par le sacrifice de ton Fils, tu nous offres d'enlever cette condamnation, je t'en remercie de tout mon cœur. Je crois que Jésus a donné sa vie pour moi, et je te demande ton Esprit Saint pour que je devienne moi-même transformé à l'image du Christ. Merci, Père Céleste. Maintenant, je pourrai m'accepter puisque en Jésus, tu m'acceptes pour me remettre à neuf. Amen.